Frères et sœurs, amis, avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, la grâce, le pardon et la paix vous sont donnés par Dieu, le Père de Jésus-Christ et notre Père. Nous nous présentons ensemble devant ce Dieu qui nous appelle avec le premier chant que vous trouverez dans le livret qui est au début du psautier français « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes l'enfant sur lequel tu veilles, avec la tendresse d'une mère qui s'occupe de son petit. Nous sommes les héritiers auxquels tu confies ton royaume. À toi, ô Dieu, soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour poursuivre dans la louange, je vous propose de prendre le psaume 81 dans notre psautier français et de chanter les strophes 1, 4, 1. Et 7, du psaume donc 81. Vous pouvez prendre place. Alors nous avons une pensée fraternelle pour les personnes qui sont rassemblées donc au palais Omnisports de Bercy pour ce rassemblement de chrétiens que nous avons pendant ces quelques jours. Et puis bienvenue à chacune et à chacun qui est venu ici donc pour ce culte, ce temps de culte. Bienvenue en particulier à Emmanuel Lafraghetta qui a choisi de faire sa profession de foi parmi nous ce matin. Alors c'est une joie, c'est un honneur, c'est un cadeau pour nous. Merci Emmanuel. Et puis bienvenue à Maxence et à Léopold de Lartigue, à leur famille, qui a demandé le baptême donc de ses deux frères. Bienvenue à ceux qui les entourent et donc que vous soyez protestants ou non, que vous soyez catholiques, que vous soyez d'une autre religion ou sans religion. Merci de partager ce temps avec nous dans cette ouverture que vous avez. Et puis bienvenue à la chorale Medipita qui nous fait l'honneur d'être là ce matin pour participer à ce culte. Alors c'est vrai que c'est une joie déjà pour ce matin, mais en plus ça annonce la soirée que nous aurons jeudi soir avec un hommage à Albert Schweitzer, donc avec de l'orgue et avec des chants africains grâce à vous. Et pour marquer ce centenaire du passage d'Albert Schweitzer, de sa carrière d'organiste, de théologien, de pasteur, à une carrière, donc, enfin, à une mission, dans un hôpital au Gabon. Voilà ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, nous dit-il, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta réflexion personnelle. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus ajoute, aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Face à cet idéal infini de l'amour, nous nous reconnaissons bien sûr comme ayant une marge de progression et nous nous tournons vers Dieu pour lui demander et son pardon et son aide. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut, il rassemble son peuple pardonnant toutes ses fautes. Mais tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de leur pardon et la grâce d'une vie renouvelée. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi par lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en Christ, Dieu se penche vers nous et nous dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé ». Avance dans la paix. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez prendre place. Alors devant la merveille que sont Maxence et Léopold, ses deux frères, nous rendons grâce à Dieu, notre Père. C'est notre joie et notre salut de t'adorer, ô notre Dieu. C'est toi qui viens vers nous pour nous donner ta présence et tes bienfaits. C'est ta liberté, c'est ton choix. Et nous te rendons grâce pour Jésus-Christ, ton Fils, et pour la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée, bonne nouvelle de ta grâce, de ton amour, de ta lumière, que tu offres sans condition à tout être. Aujourd'hui, nous te présentons avec joie Maxence et Léopold pour qu'elles reçoivent le signe de cette grâce, de cet amour et de cette lumière. Et pour cela, ô Éternel notre Dieu, nous te célébrons. À la fin de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, il y a un texte qui rappelle l'institution du baptême par Jésus-Christ. Jésus, au moment de quitter ses disciples, s'approcha d'eux et leur dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder ce que je vous ai enseigné. Et Jésus ajoute cette promesse qui se réalise par l'Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple dès les origines. Et alliance que, dans sa fidélité, il renouvelle de génération en génération. Par le baptême, Dieu manifeste le salut en Jésus-Christ. Ce baptême signifie que Dieu a aimé Maxence et Léopold le premier et qu'il appelle chacun « mon fils bien-aimé ». Ce nom de fils est donné gratuitement, sans condition, dans l'espérance qu'un jour Maxence et Léopold pourront répondre à cette parole de Dieu sur eux et découvrir sa présence auprès d'eux sur leur cheminement. Et qu'un jour, ils choisissent de devenir un disciple de Jésus-Christ, s'ils le désirent, faisant une place à Dieu dans leur vie, comme va le faire dans quelques minutes Emmanuel pour nous en réponse à son propre baptême. Maxence et Léopold, nous vous accompagnerons sur ce chemin de foi. Avec vous, nous apprendrons à faire jaillir, grâce à Dieu, une vie nouvelle de foi, de chaleur, de tendresse. Avec vous, on essaiera de construire un monde plus juste, finalement, un monde avec plus de paix et plus d'espérance pour chacune et pour chacun. Et ainsi donc, parents, parrains et marraines, Maxence et Léopold, par leur baptême, seront chez eux dans la communauté chrétienne. Large communauté qui dépasse largement les barrières des institutions humaines. Baptême tout simplement chrétien, dans cette large communauté qui, à travers les églises particulières partout dans le monde, à travers les générations aussi, rassemble tous ceux qui cherchent Dieu en Jésus-Christ. Alors aucune contrainte ne retiendra Maxence ou Léopold dans l'Église. Si jamais l'un d'eux venait à s'en séparer, bien sûr, sa place y resterait toujours prête pour le recevoir. Pour répondre à la bonté de Dieu qui les reçoit dans son alliance, vous resterez pour eux un exemple et un appui. Vous les instruirez, vous les soutiendrez, vous prierez pour eux, vous les aimerez, afin qu'avec tout cela, ils aient une chance de pouvoir parvenir à la foi et qu'ils puissent, s'ils le désirent un jour, en toute liberté, répondre à la grâce de leur baptême en prenant part à la vie de l'Église. C'est là votre vocation. Ça peut vraiment être pour vous aussi une joie. Alors je vous invite d'abord à donc les Maxence, ses parents et puis ses parrains-marraines à venir autour de ce baptistère. Maxence, c'est le grand. Maxence, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maxence, que Dieu te bénisse et te garde, qu'il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne, qu'il l'éclaire de sa lumière et de son amour. Ne crains pas, dit le Seigneur ton Dieu, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom et tu fais partie de ma famille. Je ne t'abandonnerai pas. Alors maintenant, il y a le petit frère Léopold. Donc, a la chance d'avoir un grand frère. On fait comme on peut. Léopold, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Léopold, le Seigneur tourne son visage vers toi. Il fait briller sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. Il te donne sa lumière, il te donne sa joie. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, dit le Seigneur, mon amour pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Parents, parrains et marraines, vous pouvez prendre maintenant les engagements que l'Église vous propose de prendre en cohérence avec ce baptême. Alors bien entendu, ce n'est pas obligé puisqu'ils sont déjà baptisés, donc si vous dites non, en fait, c'est plus une façon de dire que le baptême est un point de départ, en fait, hein, et que la suite est ouverte devant. Vous voulez faire connaître à Maxence et Léopold l'enseignement chrétien contenu dans la Bible, pour qu'ils puissent fonder donc leur assurance, leur confiance, leur espérance sur la grâce de Dieu. Grâce qui est attestée par ce baptême, et qu'ils puissent savoir ce que c'est qu'être disciple de Jésus-Christ, et donc qu'ils aient la possibilité de le choisir ou non. Vous les confierez à l'Église afin qu'elle les prépare avec vous à confesser la foi de l'Église universelle, celle qui est commune à tous les chrétiens de toutes sortes, Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce bien là ce que vous voulez ? Dieu vous donnera la force et la joie de tenir votre promesse. Alors vous avez choisi, je crois, comme signe de témoignage, de lire un passage de la Bible qui est important pour vous. Et c'est finalement comme un petit témoignage pour dire que vous voulez apprendre ces histoires de la Bible pour qu'ils puissent trouver la confiance en Dieu. Alors c'est l'histoire de l'échelle de Jacob. Attendez, je vais vous donner un petit micro pour que tout le monde entende bien cette belle histoire. Merci.
Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu l'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. »
Alors merci pour ce beau texte, effectivement c'est ça qui est promis, c'est cette relation directe avec Dieu, avec pas seulement des anges qui descendent pour apporter une mission qui vient de la part de Dieu, il n'y a qu'à obéir, mais des anges qui montent aussi et qui font part d'un point de vue personnel à Dieu et dont Dieu tient compte dans un dialogue finalement. Et puis la promesse de ce Dieu qui nous accompagne sur une route que nous choisissons nous-mêmes, si vous avez bien entendu, il n'y a pas marqué « voici le seul chemin devant toi », « Suis-le et tu auras la vie ». Non, il y a marqué « Je t'accompagnerai sur le chemin que tu choisiras et je le transformerai en un chemin de vie ». Donc c'est cette promesse qui est donnée à Maxence, Léopold, d'une relation directe avec Dieu et d'un Dieu qui nous aide à transformer notre propre chemin en un chemin d'une vraie fécondité. Vous avez une prière, je crois, pour présenter devant Dieu toute cette famille.
Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Maxence et Léopold, qui viennent de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour eux et pour leur famille. Donne à ses parents et à tous ceux qui auront à prendre soin d'eux, de leur révéler ton amour et de les préparer à te suivre un jour dans la reconnaissance et dans la joie. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Amen.
Merci. Un grand merci à vous tous et toutes donc pour ces baptêmes au milieu de nous. C'est pour nous une joie. Et puis, j'accueille Emmanuel, si vous voulez venir. Donc ça, vraiment, je crois que c'est beau d'avoir ces deux gestes qui se complètent l'un l'autre. Le geste du baptême qui dit le oui de Dieu sur la personne, et ce oui d'Emmanuel vers Dieu. Donc, merci beaucoup pour ce geste. Frères et sœurs, comme le Christ nous a accueillis dans son Église, nous accueillons aujourd'hui en son nom Emmanuel. Après avoir été touché par Dieu, après avoir progressé dans la connaissance de l'Évangile, après avoir reconnu ce qu'il y a de profondément vrai dans ce cheminement de vie manifesté en Christ, Emmanuel désire manifester sa foi en Dieu parmi nous ce matin. Emmanuel, c'est avec vraiment reconnaissance et joie que nous vous accueillons pour ce temps de profession de foi et que nous apprenons ainsi aussi à mieux faire connaissance avec vous. Avec l'Église chrétienne, voulez-vous confesser votre foi ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors c'est la confession de foi qui rassemble absolument tous les chrétiens. Jésus-Christ a une importance déterminante, d'une façon ou d'une autre, sur la vie du chrétien. Mais c'est vrai qu'il est bon de préciser un petit peu ce que l'on entend par là. Toujours à nouveau, nous recherchons en quel Dieu nous croyons, en quel Dieu nous ne croyons pas et comment le vivre. Donc c'est cette confession de foi que vous avez préparée qui sera notre confession de foi pour ce matin. Alors je vous propose de vous lever pour vous associer à cette déclaration de foi.
Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur, Éternel, Esprit, Amour. Je crois que tu es le seul Dieu vivant, que tu es mon Dieu. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, venu pour nous sauver. Il est chemin de vie, d'amour et de vérité. Je crois que le message de l'Évangile nous accompagne chaque instant de notre vie avec amour et nous laisse libres et responsables devant nos choix. Je crois au Saint-Esprit, Dieu agissant en notre cœur, qui fait que, jour après jour, dans l'amour de Dieu, dans la mesure de nos forces, de nos moyens si humains et des talents que Dieu nous a remis, nous pouvons œuvrer à rendre le monde meilleur. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen.
Un grand merci, Emmanuel, pour ce texte, pour cette pensée lucide, claire, belle et forte. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez vous asseoir, moi je vais rester là. Croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui car il est notre sauveur et c'est chercher à le suivre car il est notre Seigneur. Emmanuel, voulez-vous donc, avec le secours du Saint-Esprit, vous efforcez de vivre en chrétien, en disciple du Christ, en cherchant à aimer Dieu de tout votre être et en cherchant à aimer votre prochain, sans oublier de vous aimer aussi un peu vous-même.
Oui, que Dieu me soit en aide.
La vie de l'Église, mais en particulier la lecture personnelle de la Bible, la prière personnelle dans l'intimité, et puis aussi le culte et la communion sont des moyens que Dieu nous donne pour persévérer dans ce chemin que vous avez choisi d'emprunter, pour l'approfondir encore et pour être fidèle à ce cheminement de vie. Couvre le Christ devant nous. Emmanuel, vous avez reçu autrefois le baptême chrétien, signe de l'amour que Dieu a manifesté pour vous en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne universelle et avec plus grande joie encore, j'allais dire, modestement, comme dans notre Église de l'Oratoire. Alors vraiment, que le Saint-Esprit affermisse votre foi, qu'il vous accorde ses dons, qu'il vous les renouvelle de jour après jour, oui, que Dieu vous accompagne dans les projets qui sont devant vous, et même dans votre métier, bien entendu, dans la finance, dans les actions que vous pouvez avoir pour les uns, pour les autres. Oui, que Dieu vous conduise, vous garde et vous donne la paix, la force et la joie. Merci, grand merci, Emmanuel. Un grand merci à vous hein, pour ce chant qui est aussi donc un témoignage et qui vient donc nous marquer, réjouir donc de ces baptêmes et de cette profession de foi. Pour ce dimanche, je vous propose d'entendre dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon Marc, au chapitre 10, quelques passages où des personnes s'interrogent sur cette question: comment avoir la vie éternelle? Comment entrer dans le royaume de Dieu? Bon, c'est quand même quelque chose qui est relativement essentiel, je crois, dans les Évangiles. Et les réponses qu'apporte Jésus sont assez troublantes. On amena à Jésus des bébés afin qu'il les bénisse, mais les disciples critiquèrent ceux qui les amenaient. Jésus fut indigné en voyant cela et il leur dit: « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un bébé n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras, il les bénit et leur imposa les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui l'interrogeait: « Bon maître, que ferai-je pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon un seul, Dieu. Tu connais les commandements, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme lui répondit: « Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit: « Une seule chose te manque, va. Ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis alors viens et suis-moi. » Assombri par cette parole, l'homme s'éloigna avec tristesse car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples: « Avec combien de difficultés ceux qui ont des richesses entreront dans le royaume de Dieu ? » Alors les disciples furent étonnés de ce que Jésus leur disait ainsi. Alors Jésus, prenant la parole de nouveau, leur dit: « Enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres: « Mais qui peut donc être sauvé ? » Jésus les regarda et dit: « Cela est impossible aux humains, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, c'est tout à fait possible. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose de chanter un autre psaume, le psaume 89, donc toujours dans le psautier français: « Je louerai ton amour et ta fidélité. » Donc les strophes 1 et 3 du psaume 89. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi de peur que par lassitude je ne veuille plus te chercher, mais fais que toujours je cherche avec vigueur ta face. Ô toi, donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver plus encore. Devant toi est ma force et ma faiblesse, garde ma force et guéris ma faiblesse. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où je suis enfermé, ouvre-moi pour que je puisse sortir. Que ce soit de toi que je me souvienne, que ce soit toi que je comprenne, toi que j'aime. Augmente en moi ces trois dons de l'intelligence, de la foi et de l'amour, afin que je puisse être ainsi par toi réformé tout entier. Un homme se présente donc devant Jésus avec bonne volonté et lui demande des conseils pour vivre, et non seulement pour survivre. Excellente démarche. La réponse, ou plutôt les réponses successives de Jésus, sont absolument invraisemblables. Et d'ailleurs, elles ont fait scandale parmi les théologiens chrétiens depuis 2000 ans, ou à peu près. Il faut voir l'embarras des théologiens, surtout à partir du IVe siècle, devant le refus de Jésus de se le laisser qualifier du terme de bon. Bon en quoi que ce soit. Jésus dit non, il n'y a que Dieu qui est bon. Faisant alors une différence radicale de nature entre Dieu et lui-même, Jésus-Christ. Et quand le jeune homme lui demande « Que ferais-je pour hériter la vie éternelle ?» La réponse de Jésus est tout à fait choquante en théologie chrétienne. La bonne réponse, nous la connaissons. C'est celle du salut par la grâce seule de Dieu, par le moyen de la foi. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il répond ? Il répond avec 5 des 10 commandements de la loi de Moïse, et même pas ceux auxquels on s'attendait. Jésus fait l'impasse sur le premier commandement, le premier des 10 paroles dans la loi de Moïse, qui n'est même pas un commandement, mais qui est une parole essentielle qui pose comme fondation de tout la grâce libérante de Dieu. Jésus fait l'impasse sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième commandement, qui appelle à respecter Dieu dans notre adoration et à garder du temps pour le chercher. C'est quand même pas mal. Non, c'est enlevé. Jésus ne garde ici, dans les tables de la loi de Moïse, que la morale la plus basique qui soit. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tromper, ce qu'il résume en « ne fait de tort à personne », plus le 5e commandement de la loi de Moïse qui consiste à honorer son père et sa mère, ce qui est quand même le minimum qu'on puisse demander à quelqu'un comme respect de l'autre. Bref, Jésus ne garde ici que le strict minimum de la morale laïque de base, avec pas un mot sur Dieu. Alors c'est plus que surréaliste, vous en conviendrez. Alors que la question de cette page de l'Évangile est de savoir comment entrer dans le royaume de Dieu, la moindre des choses quand on veut entrer chez quelqu'un, c'est de lui demander poliment d'ouvrir la porte, ou si on entre parce que la porte était ouverte par hasard, c'est de dire bonjour avec un petit coup de chapeau à celui qui est dans la maison, qui est chez lui. Ben non. Penser à Dieu n'est même pas dans la sélection minimale que Jésus propose à cet homme plein de bonne volonté et plein de questions. Oui, vraiment, Jésus ne joue pas ici au bon maître. Il nous avait habitués à de meilleures réponses, à notre avis. Par exemple, un peu plus loin, deux chapitres plus loin, dans ce même évangile selon Marc, quand il nous donne ce résumé génial de la loi de Moïse, disant « Écoute, le Seigneur notre Dieu, il est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta propre réflexion et de toute ta force, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors là, oui, on comprend mieux l'enseignement de Jésus. Ça, c'est du bon enseignement chrétien. Il y a une vraie place pour l'écoute de Dieu, non par la crainte, comme s'il fallait nous attendre au virage pour nous mesurer, nous juger, nous jeter à la poubelle, non, mais en l'aimant et donc dans une confiance totale en lui, dans l'espérance, dans la confiance. Et nous sommes alors loin d'un code de loi à appliquer et à croire obligatoirement, mais dans l'invitation à aimer Dieu avec notre réflexion personnelle. Et du point de vue moral, c'est quand même autre chose d'être invité à aimer son prochain plutôt que d'avoir pour seul idéal de ne faire de tort à personne, non ? Aimer, c'est avoir un projet positif, créatif et en même temps respectueux de l'autre. Tout est dit là-dedans, finalement. Alors pourquoi donc est-ce que Jésus répond comme ça à ce jeune homme qui lui demande des conseils pour vivre ? La petite morale laïque que Jésus lui propose laisse effectivement l'homme sur sa faim. Jésus récidive alors, mais dans l'excès inverse, avec un commandement absurde tellement il est radical. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Pourquoi est-ce que Jésus donne ce commandement invraisemblable ? Parce que oui, évidemment, c'est impossible de tout donner, comme Jésus le conseille ici. Parce que pour cela, il faudrait ne pas exister, tout simplement. Car manger ne serait-ce qu'une bouchée de pain, c'est déjà posséder quelque chose, un morceau de pain que l'on ne donne pas à l'autre qui peut-être meurt de faim, juste à côté de nous. C'est donc impossible de tout donner, c'est tout simplement impossible. Et d'ailleurs, ça ne peut pas fonder un modèle de société. Les agriculteurs n'auraient plus de charrues ni de semences, le boulanger n'aurait plus de four. Bon, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, on sait très bien que Jésus ne s'appliquait pas à lui-même cette idée de tout donner au moment où il dit cela au jeune homme, puisque nous savons par les évangiles qu'il avait une tunique et d'autres affaires dignes de la convoitise des soldats romains qui se les partagent avec gourmandise au pied de la croix. Donc dans cet épisode, Jésus n'est pas un bon maître. Eh bien, c'est qu'il ne cherche pas à l'être ici. Comme je vous le disais, quand il veut nous donner un véritable idéal de vie, de foi, de relation aux autres, de relation avec nous-mêmes, il sait le faire et c'est génial. Oui, il y a une excellente philosophie, une excellente éthique basée sur les paroles et la vie du Christ. Alors à quoi est-ce que Jésus joue ici ? C'est qu'il y a des choses qu'il ne suffit pas d'expliquer, parce que ça ne suffit pas de les connaître pour en vivre. Il y a des choses essentielles que l'on doit expérimenter, toucher pour les saisir en fait. C'est vrai même pour quelque chose de tout simple comme le goût d'une bonne fraise. Une thèse de doctorat en 500 pages n'apprendra pas le goût de la fraise à quelqu'un qui n'en aurait jamais croqué une. C'est pourquoi Jésus parle en parabole, finalement, afin de faire expérimenter des impasses dans lesquelles nous sommes et nous permettre ainsi non seulement d'apprendre des choses sur Dieu, sur la vie, mais d'évoluer dans notre cheminement, dans notre espérance, dans notre logique. Et le dialogue que conduit Jésus ici avec ce jeune homme et puis ensuite avec les disciples et donc avec nous-mêmes, lecteurs de l'Évangile, ce dialogue a le même objectif qu'une parabole. Jésus cherche à nous faire expérimenter des impasses. Nous sommes naturellement un peu comme une mouche qui n'arrive pas à sortir d'une bouteille de verre, parce qu'elle rame d'une façon tout à fait illusoire face à la paroi de verre de la bouteille. Et, elle ne se rend pas compte que cette barrière est absolument infranchissable pour elle. Alors Jésus cherche ici à nous faire prendre conscience de nos murs de verre, et pour cela, il cherche à nous les faire expérimenter, à nous les faire toucher, pour que nous puissions vraiment trouver la sortie et vivre enfin. Mais pour cela, il est nécessaire de lire par nous-mêmes finalement ce récit, d'avoir le courage de se l'approprier personnellement, intimement, dans la prière et dans l'introspection. Alors bien sûr, cette expérience de l'impasse est troublante. Elle est parfois triste, elle est parfois difficile, elle est parfois angoissante même. Car on lâche alors de fausses sécurités. Ah, qu'il est bon d'être bien au chaud dans ces murs de verre. On lâche alors de fausses sécurités pour partir comme Abraham et sa roulotte en nomade vers un pays que nous ne connaissons pas. C'est ce que vit le jeune homme quand, assombri par la parole de Jésus, il s'éloigna avec tristesse. C'est ce qui arrive quand les disciples vont d'étonnement à un étonnement plus grand encore dans leur dialogue avec Jésus et qu'ils ont le sentiment de ne plus rien comprendre au salut de Dieu apporté en Jésus-Christ. Jésus ne veut pas les attrister, ni le jeune homme, ni les disciples, ni nous-mêmes bien sûr. Mais c'est toujours triste dans un sens de perdre ses illusions, même si c'est pour s'ouvrir à infiniment mieux au monde et à la vie et à Dieu et aux autres et à soi-même. Alors la première impasse que Jésus fait découvrir ici, le premier mur de verre que Jésus fait sentir, découvrir au jeune homme, c'est en refusant de se laisser appeler bon. Il est utile d'expérimenter l'impossibilité d'être totalement bon. Bien sûr, nous le savons, mais il faut arriver à l'imprimer, à le vivre. Ce n'est pas se résigner à la médiocrité de faire le deuil de la parfaite bonté, mais c'est pour vivre en vérité en étant peut-être moins sévère et avec les autres et avec soi-même, plus bienveillant envers la vie vraie, la vie réelle. C'est accepter la vie en ce monde et le tragique d'avoir souvent à choisir non pas la bonne voie, mais seulement la moins mauvaise possible. Et ça, bien sûr, oui, nous le savons, mais nous ne le connaissons vraiment que quand nous l'avons expérimenté avec larmes de repentance et avec la joie de se sentir pardonné, en fait. Et par qui d'autre pourrions-nous l'être vraiment pardonné, si ce n'est par Dieu seul qui nous connaît et qui nous aime vraiment, en fait. Même Jésus a besoin de ce pardon. Il n'est pas une sorte d'esprit flottant à 10 cm du sol et faisant simplement semblant d'être humain. Non, lui aussi doit manger pour vivre. Et donc, il lui aussi est obligé de ne pas donner la bouchée de pain qu'il est en train de mâcher et de digérer. Il est obligé de ne pas la donner à celui qui est tout près et qui meurt de faim, bien sûr. Lui aussi doit s'arrêter de temps en temps de servir les autres pour se reposer et pour prier. Et donc d'arrêter d'aimer son prochain à ce moment-là, ou en tout cas de le servir. Lui aussi doit de temps en temps s'arrêter de prier et de respecter le sabbat pour aller donner un coup de main quand le cœur lui en dit. Donc Jésus est le Christ, mais même lui ne mérite pas d'être appelé bon, et c'est normal. Et en cela aussi, il est notre frère en vivant sur terre parmi nous. Jésus propose alors un premier enseignement, celui de la morale minimale qui consiste au moins à ne pas nuire aux autres et à avoir de la gratitude pour ceux qui nous ont donné la vie. Comme le dit le jeune homme, en faisant attention, on peut quand même y arriver, ça, assez bien. Mais alors, comme le jeune homme, il est bon d'expérimenter qu'une vie réglée par une bonne petite morale raisonnable manque de souffle. Manque de vie véritable, manque de quelque chose d'absolument nécessaire, en fait. Jésus propose une petite morale du strict minimum comme une solution possible à la recherche du vivre bien. Le jeune homme se projette par la pensée dans ce que ce serait que vivre ainsi. Dans une certaine mesure, nous vivons en nous contentant souvent de ce peu d'ambition, en vivant finalement une petite vie bien pépère. Jésus, dans ce passage et dans tout l'Évangile, cherche à nous faire toucher ce mur de verre, finalement, et ressentir que la vie crie en nous, finalement, du manque d'une autre dimension. Jésus propose alors un second enseignement, celui d'un idéal infini, où l'on donnerait sens à sa vie en l'offrant dans un acte de générosité infinie, comme une sorte de feu d'artifice de don de soi, renonçant à être soi-même pour gagner un trésor qui est au ciel. Le problème, c'est que ce type de calcul, se sacrifier pour avoir la vie dans le ciel, est encore de l'égoïsme finalement. C'est encore... On utilise les pauvres éventuellement, mais sans les aimer vraiment, sans les aider à vivre, mais ils sont là, les pauvres, que comme une occasion d'acheter son petit salut à soi, sa petite bonne conscience. Or, l'égoïsme, finalement, le calcul pour soi, c'est source d'amertume, de tristesse et d'obscurcissement de notre horizon. C'est pas ça que Jésus propose. Et donc le jeune homme, il ressent une seconde impasse cruelle. Il est riche, riche d'argent peut-être, qu'importe, Jésus ne fait pas cette distinction. Et il a en plus une intelligence, une foi, un goût de vivre pour avancer. Il sait qu'il est riche d'être lui-même, finalement, tel qu'il est déjà, car Jésus l'aima, nous dit le texte, quand il le vit. Et Jésus lui fit sentir qu'il l'appréciait et il le trouvait aimable. Il est donc riche, il se sait riche. Et comment est-ce que Dieu lui demanderait de sacrifier ce que Dieu lui a donné et qu'il devrait sacrifier cela pour faire plaisir à Dieu qui le lui a donné? Ça tourne complètement en rond, c'est une folie pure, si vous voulez, c'est pas logique, ça ne tient pas debout. C'est une folie comme celle d'Abraham, qui pense un moment que Dieu lui demanderait, c'est terrible, de tuer son fils, le fils que Dieu lui a donné, pour réaliser une promesse que Dieu lui donne, mais c'est une impasse totale, si vous voulez. Après l'impasse de la morale minimale, Jésus nous aide à sentir que c'est une folie sombre et triste de vouloir se sacrifier ainsi afin de se sentir digne d'être aimé. Ça ne marche pas comme ça, nous dit Jésus. De toute façon, dit en rigolant le Christ, même en faisant une formidable cure d'amaigrissement, un chameau ne passera pas par le chat d'une aiguille. Donc Dieu ne nous demande pas de sacrifier notre richesse pour passer par la porte de son amour et entrer dans son règne. Il ne nous demande pas de sacrifier ce qu'il veut pour nous, la richesse de nos idées, de notre intelligence, la richesse de notre personnalité, ni de sacrifier nos moyens d'agir en ce monde et d'être heureux. La vie est de toute façon un miracle de Dieu. Il veut que nous ayons la vie, bien sûr, nous le voyons bien, ça ne fait pas l'ombre d'un doute en Christ, car lui aussi, Christ, en nous regardant, il nous aima. Donc Dieu veut que nous ayons la vie et Jésus ajoute cette promesse en fait. Dieu peut absolument nous donner la vie. À Dieu, c'est possible. La question est donc réglée. Bon, il l'avait déjà dit avant dans le passage que j'ai lu d'entrée de jeu en disant que le royaume est pour les bébés, alors qu'ils ne savent rien de Dieu, qu'ils n'ont encore rien accompli et qu'ils n'ont rien à offrir à personne. Mais la question, c'est d'aller au-delà de ce simple savoir pour la vivre. Et suivre alors le Christ dans son cheminement, en fait. Alors oui, nous pouvons commencer par une morale minimum, s'abstenir autant que nous pouvons de faire du tort à notre prochain, éviter de tuer, de mentir, de tromper, au moins cela, et savoir que tout le reste est resté libre et laissé libre par Dieu. Le reste est à inventer. Toute la théologie, des projets de vie, des éthiques, une éthique, des belles choses. Et pour cela, Jésus nous propose d'honorer père et mère, c'est-à-dire de s'ouvrir à la gratitude et à la louange. Mais aussi, puisque nous découvrons que Dieu est père et mère dans ce texte, honorer Dieu comme père et mère aujourd'hui encore, car il peut aujourd'hui nous enfanter. Et ce qui est déjà né de lui, il cherche encore à l'allaiter aujourd'hui, à l'éduquer, le laisser grandir, s'épanouir. Et donc ce Dieu qui offre des miracles de franchissement aux lourds chameaux que nous sommes, nous pouvons s'ouvrir à lui, s'ouvrir à cette ouverture qu'il place devant nous, s'ouvrir à ce souffle, s'ouvrir à ce manque que ressent le jeune homme, à cet appétit de faire le bien qu'avait le Christ. Dans sa vie quotidienne, le Christ ne donnait pas tout jusqu'à la dernière bouchée de pain. Mais ce qu'il donnait, il le donnait par amour, non par calcul, pour se faire une petite vie éternelle. Alors que le jeune homme cherchait à acheter le paradis, voilà qu'il découvre que la porte est grande ouverte finalement, et qu'il est donc riche et libre d'en faire ce qu'il veut, de cette richesse qu'il a, de cette richesse qu'il est. Il est libéré du seul moralisme de base comme horizon. Il est libéré de la folie des héroïsmes, libéré de la menace d'un Dieu terrible. Alors que faire ? Même si nous sommes toujours en fait un enfant dans la main de Dieu, c'est alors que nous ne sommes plus seulement des bébés finalement, mais que nous assumons en responsabilité ce vertige face à la liberté et face à cette richesse que nous sommes. Les richesses spirituelles ont une qualité extraordinaire. Celui qui en donne ne s'en dépouille pas lui-même. Et pourtant, le pauvre repart plus riche. Il repart plus joyeux de notre joie. Il repart avec un peu plus d'espérance sans que nous en ayons moins. Il repart avec un peu de notre espérance, finalement. Il repart peut-être avec l'envie d'aimer un peu plus après avoir été un peu aimé par nous. Notre richesse, ainsi, devient un trésor spirituel qui fructifie au fur et à mesure de nos dons. Qu'est donc devenu le jeune homme ? Qu'a-t-il fait de cette liberté et de cette richesse ? Qu'a-t-il fait de sa vie ? L'Évangile ne nous dit pas finalement la suite de l'histoire du jeune homme riche. La suite n'est pas encore écrite parce qu'elle n'est pas encore vécue. Elle est ce que nous ferons nous-mêmes avec notre cœur là où nous le plaçons, ou non, en fait. Amen. Merci beaucoup à vous. Alors je vous propose de chanter le cantique 190 dans le petit recueil Louanges et prières. Roi des anges, nos louanges monteraient-elles jusqu'à toi ? les strophes 1, 2 et 3 du cantique 190. Vous pouvez prendre place pour quelques annonces. D'abord, il y a encore une bonne nouvelle, c'est que nous avons un moment convivial à la sortie, un joyeux moment de peau qui a lieu derrière la grande porte qui est au fond du cœur, comme le dirait Rodrigue. Donc, c'est l'occasion de discuter donc avec Emmanuel en particulier et puis donc avec nos amis de la chorale Medipita Paris. Et puis, avec les uns, avec les autres, car ça fait partie aussi, il a dire, du culte de découvrir d'autres personnes aussi et de se saluer. À 15h ici même, il y a le baptême de deux enfants, c'est pour ça qu'on a même des jolies fleurs, c'est qu'ils nous ont apporté des jolies fleurs pour cet après-midi à 15h. Lundi à 19h30, il y a la reprise des cours de grec biblique pour débutants. Alors c'est vrai que nous avons trouvé donc une nouvelle professeure, Aurore Mériot, qui va débuter ce groupe de grecs débutants, grec biblique débutants. C'est vrai que c'est vraiment passionnant, je crois, d'avoir cette capacité de lire les textes de l'Évangile, du Nouveau Testament, donc dans la langue originale. Donc demain soir, 19h30, en face, aux 4 rues de l'Oratoire. Mardi à 14h30, il y a l'étude biblique avec James Woody qui va reprendre sur le livre d'Ézéchiel cette année. Jeudi, je vous le disais, jeudi soir à 20h30, il y a ici une grande soirée d'hommage à Albert Schweitzer, avec nos organistes, avec cette chorale, avec une anthologie de textes d'Albert Schweitzer qui vont être lus donc, par un Yvan Robert Garouel, qui est un acteur comédien professionnel, et puis avec une introduction de Laurent Gagnebin pour chaque partie, et puis une conclusion par le professeur Chabrol, donc, qui est en lien aussi avec cet hôpital de Lambaréné au Gabon pour, vous savez, ces opérations à cœur ouvert donc, en France. Ça, c'est jeudi soir à 20h30. Et puis samedi à 10h, il y a l'Hébreu biblique, la deuxième rencontre de cette année avec Gilles Castelnau. Dimanche soir, nous accueillons ici pour la Nuit Blanche à Paris, vous savez, ce mélange donc, de patrimoine et d'art moderne. Donc, nous serons ouverts ici de 19h à 2h du matin. Donc, si vous avez envie de donner un coup de main, c'est possible, même si ce n'est pas jusqu'à 2h du matin. Et puis dimanche matin, nous aurons ici un culte à 10h30, bien sûr, comme tous les dimanches, avec l'éducation biblique. Alors il est encore temps d'inscrire vos enfants à l'éducation biblique. Et dimanche, il y a aussi en fait un repas de paroisse. Et pour le repas, ça aide si on sait un petit peu combien il y a de gens. Donc si vous désirez participer à ce repas de dimanche prochain, c'est mieux de s'inscrire à la sortie auprès du comptoir de librairie. Maintenant, les diacres de notre Église vont recueillir votre offrande. C'est vrai que nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. Et donc, le don est un geste de louange et de reconnaissance. Nous prions Dieu. Ô Dieu notre Père, tes mains se sont vraiment ouvertes pour nous et nous voulons t'en bénir. Merci pour toutes celles et ceux qui nous ont entourés, qui nous ont aimés. Merci pour tous les gestes de foi qui nous ont émerveillés, qui nous ont aidés à avancer. Merci pour ces dons que nous avons et qui nous permettent, oui, de vivre dans le bonheur et dans la grâce, d'une certaine façon, chaque jour. Alors merci pour toute cette richesse. Mais grâce à ton l'amour que tu mets dans notre cœur, nous voulons penser avec toi, grâce à toi, à ceux que tu nous confies pour que nous puissions être un secours, une aide, une espérance pour eux. Et nous résumons toutes ces prières, toute cette confiance, toute cette espérance en toi, dans cette prière que le Christ nous a apprise et qui fait de nous tous des frères et des sœurs du même Père que nous avons dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction qui vient de la part de Dieu sur notre vie tout entière. Que l'Éternel te bénisse, toi, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Oui, béni sois-tu, ô Dieu, source de vie.